monde suspendu à un coup de fil. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé cet après-midi d'un possible cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Kiev en a déjà accepté le principe. La balle est désormais dans le camp du Kremlin.
Les dirigeants ont convenu que le mouvement vers la paix commencerait par un cessez-le-feu dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, ainsi que par des négociations techniques sur la mise en œuvre d'un cessez-le-feu complet. Ces négociations débuteront immédiatement au Moyen-Orient.
Vladimir Poutine n'a pas écarté le scénario d'une trêve, mais comme il l'a dit déjà jeudi dernier, il pose ses conditions. Poutine revendique les territoires annexés. Il s'oppose à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et réclame le démantèlement du pouvoir en place à Kiev. Le maître du Kremlin le sait, il est en position de force, car sur le front, les soldats ukrainiens battent en retraite. L'armée russe reprend des villages un à un dans le secteur de Koursk. De combat, tout comme à Kiev, les Ukrainiens attendent d'être fixés sur leur sort, pas vraiment prêts à céder des territoires à l'envahisseur russe.
J'ai deux frères là-bas sur le front. Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Ils ont passé deux ans dans les tranchées pour rien.
Moi, j'espère juste que l'on reviendra aux frontières de 2022.
Alors, comment Donald Trump et Vladimir Poutine comptent-ils redessiner la carte de l'Ukraine? Vont-ils se partager des terres stratégiques et des usines de production d'énergie, comme l'a laissé entendre le président américain? L'Europe peut-elle encore peser sur les négociations?
Favorable. Mais manifestement, Trump a dealé la région de Koursk avec Poutine, puisque Poutine en faisait une condition sine qua non de signer un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que le cessez-le-feu va figer la ligne de front. Or, pour lui, c'était totalement inacceptable que la ligne de front puisse passer en Russie. Donc, il ne voulait même pas en discuter. Et puis, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité, Trump n'a rien exigé de Poutine. Poutine a juste étalé toutes ses demandes et il a ramassé la mise. C'est en ça que, pour moi, ce n'est pas une négociation, c'est une trahison. On attendait de Trump autre chose. Et pour la situation à Koursk, c'est juste une affaire de jours pour que le territoire russe ait totalement été repris par les Russes. Mais ce n'est pas du fait des soldats russes. C'est parce que les Ukrainiens ont été obligés de quitter le territoire, notamment à cause de l'arrêt du renseignement la semaine dernière, qui leur a immédiatement montré que, dans ces conditions, ils n'étaient pas capables de savoir comment les Russes allaient opérer contre eux. Ils sont, on l'estime, 6 fois plus nombreux qu'eux sur ce territoire.
Les Ukrainiens
qui ont pu être interrogés reconnaissent que l'apport récent des Nord-Coréens, ils se sont énormément améliorés dans leur capacité de combattre. Ils se sont mieux coordonnés avec les Russes. Enfin, ce n'est pas la première vague qui est arrivée sur le terrain. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'actuellement, l'armée russe continue de poursuivre. Et quand une armée est sur sa lancée, le souci, c'est qu'elle enfonce de plus en plus les troupes adverses qui sont quand même, qui peuvent être quand même démoralisés, parce que l'histoire nous dira ce qui s'est passé à Koursk, dans cette oblast, parce que là, actuellement, c'est un peu flou. Mais s'il y a eu obligation de retrait, s'il y a eu erreur de chef d'état-major, enfin, et ce retrait en laissant des copains sur le terrain, c'est quand même très démoralisant. Donc un front enfoncé, peut-être, pourquoi pas, c'est bien la volonté russe, qui veut établir, j'ai envie de dire, presque une zone tampon, mais au-delà de sa frontière.
D'entrée de jeu, disqualifier cette possibilité de considérer Koursk comme une monnaie d'échange parce que c'était le territoire sacré de la Russie historique et que par conséquent, il n'allait pas échanger un morceau du territoire sacré de la Russie historique contre un territoire conquis sur l'Ukraine. Il y avait quand même une différence de nature. Il l'avait dit très clairement. Donc en effet, c'était un préalable. Il fallait que le fait d'armes que les Ukrainiens avaient réussi de mettre le pied sur ce territoire russe soit effacé, et il l'est peut-être avec les derniers éléments d'ici demain ou après-demain, mais fondamentalement il l'est, et il y a eu un accord entre les Américains et les Russes sur les conditions pour que les Russes ne massacrent pas les soldats ukrainiens. Poutine a dit pendant 2 jours, ils sont encerclés, mais je vais les traiter suivant le droit international, comme M. Trump l'a demandé, ou comme la loi de la Fédération de Russie. Comme il avait toujours dit, ce sont des terroristes, les terroristes, on les fusille.
Par exemple, sur Koursk, en fait, ce qui avait surpris les Russes, c'est qu'ils n'ont pas anticipé l'offensive ukrainienne, alors qu'ils ont des moyens puissants. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Les Américains faisaient beaucoup d'opérations cyber qui permettent de brouiller ou de leurrer leur système d'observation. Et là, on se souvient qu'il y a 15 jours, Donald Trump a annoncé qu'il interdisait des opérations cyber contre la Russie, premier élément. Et deuxième élément, il coupe le renseignement américain, alors que pendant 3 années, les Ukrainiens n'avaient jamais été surpris par les Russes. Et à Koursk, d'un seul coup, ils se retrouvent à ne plus savoir où est leur ennemi. Ils ont les yeux bondés sur un ring de boxe.
Mais Patricia...
Intérêt à long terme. Mais là, dans le rapport de force qui s'est établi dans cette relation avec Trump, les deux hommes ont quelque chose à gagner. Poutine a gagné par une reconnaissance internationale et un retour massif sur la scène diplomatique. C'est vraiment son succès. Trump, lui, c'est un succès intérieur. Il a promis, comme on l'a dit très justement, à son peuple. Donc chacun a son succès. Donc les deux ont un intérêt. Mais je dis bien, c'est un intérêt à court terme. Et là, après, c'est, comme on dit, c'est dans le détail que se nichent les difficultés. Et quand on commence à discuter dans le détail, et là, ça risque d'être un peu plus difficile.
C'était prévisible que cet entretien téléphonique débouche sur l'établissement d'une structure permanente, Russie-États-Unis, pour négocier précisément tous ces points durs qui sont à négocier. Puisque là, dans le fond, ce que les Américains proposaient, et ils avaient obligé l'Ukraine à accepter, c'était un cessez-le-feu de 30 jours sans condition. Mais il était bien entendu qu'après, il fallait négocier tous les sujets de fond.
Et là, ils ont convenu de commencer immédiatement.
Évidemment, sans les Ukrainiens et sans les Européens.
Mais juste après, ça peut durer une éternité, l'immédiat. Avec Poutine, c'est souvent ça.
Ouais. Plusieurs volets qui auraient pu être discutés, qui ont été discutés dans ces négociations. Est-ce qu'on stoppait les bombardements? Mais c'est quoi la limite des bombardements? Aujourd'hui, il y a 1 millier de bombardements tous les jours sur la ligne de front. Donc, si on stoppe tout, en fait, il n'y a plus de guerre. Parce que la guerre en Ukraine, c'est d'abord une guerre de bombardements. Ouais. Est-ce qu'on cesse les bombardements sur l'arrière, en civil? Mais en fait, la ligne de front est très incohérente. Et donc, on voit bien qu'il y a des villes très importantes qui sont sur la ligne de front, qui sont bombardées au quotidien. Et puis, il y a les installations énergétiques. Alors attention, ça, c'est quelque chose de particulièrement sensible pour les Russes, parce que même s'ils disent, même pas mal, après chaque bombardement ukrainien, les installations pétrolières qui ont été détruites par des vagues de drones ont beaucoup pénalisé les Russes, d'autant qu'ils font monter les prix de l'essence. Et ça, la société russe est sensible, parce que là, on ne parle plus de philosophie de la guerre en Ukraine.
Par le pouvoir d'achat quotidien.
À la pompe. Ouais. Et évidemment, pour les Russes, c'est consternant de se dire que la guerre en Ukraine leur apporte de l'inflation. Donc, le fait que Poutine ait accepté cet aspect-là, je dirais que c'est plutôt positif. Le fait qu'il n'y ait pas, dans ce premier accord, un stop, une trêve des combats au sol, est très inquiétant, parce que ça veut dire qu'il a bien l'intention de continuer à grignoter du terrain, comme le décrivait Patricia tout à l'heure.
J'ajouterais que cette idée de cesser de bombarder les infrastructures énergétiques,
y compris tout ce qui est de l'ordre
du côté de l'Ukraine et du côté de la Russie, était une idée qui est apparue au mois de juin dernier. C'était donc pas une idée de Trump.
De ce matin.
C'est une idée qui est apparue. Il y a eu un début de négociation entre les Russes et les Ukrainiens directement.
Donc
les
il n'y avait plus vraiment de bombardement sur ces zones-là, alors.
Et ça a capoté au moment où les Russes se sont retirés, quand les Ukrainiens ont pénétré sur le territoire de Koursk. Les Russes ont dit, puisqu'ils font ça, on cesse toute négociation. Autrement dit, il y avait un accord, il y avait un intérêt commun, en tout cas, à cesser les bombardements sur les infrastructures énergétiques.
Non pas y déroger, il s'agit d'abord d'un statut de neutralité pour l'Ukraine, ce qui sous-entend que l'Ukraine ne pourrait pas adhérer à l'Union européenne, pas d'adhésion à l'OTAN non plus, un changement de régime à Kiev avec des élections proches, l'annexion des 5 régions occupées au sud, à l'est et bien sûr la Crimée, et puis la levée des sanctions occidentales. Mais à cette liste se sont rajoutées de nouvelles réclamations. Pour la Russie, il est dorénavant exclu que l'Ukraine continue à recevoir l'aide militaire des États-Unis et qu'elle recrute de nouveaux soldats pendant cette trêve qui n'est pas encore arrivée. Hors de question qu'elle soit aussi réarmée à plus long terme. Et quant au déploiement en Ukraine de soldats de la paix européens pour contrôler ce cessez-le-feu, il n'en est pas question. Tout cela, dit la diplomate russe Maria Zakharova, tout cela signifierait l'implication de ces pays dans un conflit armé direct avec notre pays, auquel nous répondrons par tous les moyens disponibles.
Monter leurs enchères, on connaît leur volonté depuis longtemps. Alors ils ont rajouté effectivement des éléments, mais ce qui compte pour eux, c'est que l'Ukraine effectivement ne se réarme pas et ne soit pas soutenue avec, sur le plan militaire, par les États-Unis et par les Européens. Et quant à savoir si on va obéir aux injonctions russes, c'est toute la question que doivent actuellement se poser nos dirigeants, parce qu'ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont compris, ils savent que les négociations vont se poursuivre. Mais comment va répondre l'Europe si Vladimir Poutine ne bouge pas de ça et dit « j'interdis aux Européens de livrer » les Américains, d'accord, ils obtempéreront, j'interdis aux Européens de livrer des armes. Si nous, on veut livrer des armes, est-ce qu'on va se dire « bon bah Poutine, comme d'habitude, il menace, et puis finalement, il ne déclenche pas l'arme nucléaire dont il nous promet chaque fois » ou on va finalement obtempérer et se coucher.
Donc, oui.
Cessez-le-feu un peu partout dans le monde, il y a avec un cessez-le-feu un moratoire. Et le moratoire, ça veut dire que les gens qui soutiennent les uns ou les autres s'abstiennent de livrer de nouvelles armes. Sauf que là, les dés sont pipés, puisque l'un des partenaires, c'est la Russie précisément, et qu'elle a une industrie, un complexe militaro-industriel qui tourne à plein, qui va continuer à tourner à plein. Donc pourquoi est-ce que nous, on arrêterait de livrer des armes à l'Ukraine? Mais l'idée du moratoire, évidemment, vient spontanément lorsqu'on parle de cessez-le-feu. Moratoire sur la livraison d'armes. Qui livre des armes? C'est les Occidentaux.
Question de business que, pardon, Zelensky maladroitement a voulu apporter du côté de Trump, et dont on s'aperçoit que, effectivement, ça parle à Trump, mais Trump est d'une duplicité totale, parce que ce qu'il négocie avec les Ukrainiens, il négocie la même chose du côté russe. Donc il sait que, où que soit la ligne de démarcation, en fait, il l'exploitera de la même manière. Par ailleurs, personne ne sait réellement ce qu'on peut exploiter sur les terrains. Je voudrais remarquer que sur les exigences russes, il faut d'abord y lire l'exaspération de Poutine face à la résistance ukrainienne. Il faut quand même se rappeler que quand la Russie a lancé cette opération,
la deuxième armée du monde,
elle estimait faire ça en 3 jours ou en 3 semaines. On est 3 ans après. La deuxième chose, c'est que quand les Russes parlent de garantie de sécurité pour la Russie, c'est quand même incroyable. C'est pas l'Ukraine qui a envahi la Russie. Il faut quand même rappeler la situation. Les garanties de sécurité, en fait, elles sont à donner pour l'Ukraine. Et c'est pour ça que les Russes s'opposent à toute force d'intervention européenne, parce qu'ils ne veulent pas que l'Ukraine puisse avoir des garanties de sécurité. On est dans un monde inversé, et le plus inquiétant, c'est que Trump reprend ce récit en permanence.
Claude Nogeson,
au Moyen-Orient,
au Moyen-Orient, tous ces problèmes vont être évoqués là. Donc en effet, Trump s'en est finalement tiré, en renvoyant tous ces problèmes très compliqués, en effet, et dont un certain nombre comportent des exigences inacceptables pour l'Ukraine, et pour nous d'ailleurs, et pour nous, alors, ça va être une complication. C'est renvoyé à une structure à laquelle nous ne sommes pas partis, et à laquelle l'Ukraine n'est pas partie.
Sauf que Patricia Lemonnier, quand même,
dans la soirée, cette interview sur Fox News, dont on aura sûrement des éléments, mais en théorie c'est vers 20h, 21h, heure américaine, donc c'est tard par rapport à nous dans la nuit, sauf fuite de cette interview. Il va sûrement, dans cette interview, dire « voyez, ça y est, j'ai gagné, c'est moi le grand vainqueur ». Mais je crois que bon, personne n'est dupe, parce que la situation pour l'instant est quand même très volatile. Et quand il dit, par exemple, les installations, plus de frappe sur les installations
énergétiques,
on pense à la centrale de Zaporizhzhia, la fameuse centrale que les Russes ont de le prix de leur côté et qu'ils veulent s'accaparer. Est-ce que, justement, c'est pour aussi protéger ce petit pactole qu'ils veulent
On a été exclus des négociations, puisque Trump a négocié directement avec Poutine, sans les Ukrainiens, sans les Européens. Le seul moyen pour nous de revenir, c'est d'imposer que ce soit une force européenne qui garantisse cet accord de paix qui devra être trouvé. Parce que sans force européenne, il n'y aura pas de ligne de démarcation.
La négociation qui va se dérouler...
Est-ce qu'il a cette force-là, pardon, Patricia?
Oui, parce qu'il peut nous imposer, parce que la guerre, il peut un peu quand même la continuer, même s'il n'a plus d'armes et qu'il est aveugle, il a des moyens de nuisance. Donc, il peut exiger qu'on soit quand même un peu présent. Je pense que...
Je ne suis pas sûr que Dieu et Poutine vous entendent tous les deux. En effet, je souhaite que ce soit ce qui se passe, mais pour imposer des troupes européennes, je ne vois pas très bien comment... Trump va pouvoir s'y prendre vis-à-vis de Poutine, parce que c'est un point dur pour lui, il n'en veut absolument pas.
Oui. La question de Trump, en réalité, Trump n'a rien à faire ni de ses conseillers ni de ses alliés. Il discute directement avec Vladimir Poutine et il essaye de le ramener dans un jeu international, et c'est ce qui intéresse le plus Poutine, c'est de retrouver sa place dans le concert des très grandes nations. Il parle en direct avec Donald Trump. Sa hantise, c'était de devoir discuter avec Zelensky. C'est horrible qu'il a osé résister à l'armée russe, qui n'a rien compris au fait que l'Ukraine devait appartenir à l'Empire russe. Et donc,
il est réhabilité, quoi, de fait.
Il est habilité, et surtout, Trump n'a aucun scrupule. On voit bien qu'il a des mœurs, pardon, de mafieux quand il extorque des centaines de milliards d'euros à l'Ukraine, alors que c'est le pays qui devra être reconstruit. Enfin, pardon, mais c'est des méthodes qui sont dignes de la mafia.
Patricia, ça la réactive depuis un certain temps, et je crois que les Européens, effectivement, doivent, relever les manches, hein, et se mettre au travail, mais c'est du long terme. Maintenant, à court terme, on n'a pas les armes pour soutenir... effectivement, l'Ukraine, on n'en a pas assez, on n'a pas les moyens. Et effectivement, les deux, en tout cas, ne rêvent que d'une chose, c'est de se partager le monde avec les Chinois, même, pourquoi pas. Et tous les trois, pourquoi pas, sur une belle photo, tous ensemble, et nous, observateurs.
On aura des effets qu'à moyen terme. Donc, effectivement, très cyniquement, certains disent, pour ce coup-là, ça n'aura pas beaucoup d'effet, c'est pour le coup d'après. Par contre, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec les Chinois, parce que les Chinois ne sont probablement pas très contents de ce que Trump et Poutine sont en train de négocier. Ils sont contre la reconnaissance de cette annexion. Et les Chinois ont peut-être une idée, et peut-être que l'Union européenne devra se rapprocher d'un certain nombre de pays asiatiques.
Très bien, à suivre.